Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Idrissa Seloudia. Le président américain Donald Trump a annoncé dans un tweet lundi qu'il allait suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis pour protéger les emplois des Américains face à la crise économique provoquée par le coronavirus. Le coronavirus a déjà tué plus de 42 000 personnes aux États-Unis, où 766 660 cas ont été enregistrés. Quelque 22 millions d'Américains ont également perdu leur travail à raison des conséquences économiques de l'épidémie. M. Trump avait, dès janvier, restreint les déplacements avec la Chine, où le nouveau virus est apparu en décembre, avant d'interdire les voyages entre les États-Unis et la plupart des pays européens à la mi-mars. Ces derniers jours, M. Trump a semblé encourager les manifestants en colère contre les mesures de restriction adoptées dans certains États et approuvé la levée du confinement dans plusieurs régions du pays. Pour rappel, le président américain, candidat à sa réélection, avait fait campagne sur des mesures visant à limiter l'immigration. À ce jour, le continent européen a payé le plus lourd tribut, comptant près de deux tiers des plus de 168 000 morts recensés dans le monde lundi. L'Italie a été le pays européen le plus touché avec 24 114 décès, suivi de l'Espagne 20 852, de la France 20 265, et du Royaume-Uni 16 509 selon un bilan de l'AFP. En Italie, le nombre de malades a toutefois baissé lundi pour la première fois. Au Burkina Faso, les affaires vont enfin pouvoir reprendre au marché central de Ouagadougou, considéré comme le poumon économique du pays. Il a été rouvert lundi, près d'un mois après sa fermeture pour cause de coronavirus, au grand soulagement des commerçants. L'épidémie a causé 36 morts pour 576 cas au Burkina. Des experts s'interrogent sur la pertinence de confinements stricts en Afrique, où des millions de citadins miséreux vivent au jour le jour, et ils plaident pour des politiques de tests en masse et d'aide directe aux plus vulnérables. Le Ghana est devenu lundi le premier pays d'Afrique à lever le confinement imposé depuis 3 semaines, une décision qui soulage les plus pauvres autant qu'elle inquiète sur l'avenir de la propagation du coronavirus dans le pays qui a enregistré plus de 1000 cas. Le président Nana Akufo-Addo a assuré que grâce à une importante augmentation des capacités de dépistage, la traçabilité des personnes en contact avec les malades et l'ouverture de nouveaux centres de quarantaine, le pays était en mesure de retrouver un semblant de vie quotidienne. Au Nigeria, le gouverneur de l'État septentrional du Borno, une région parmi les plus pauvres du monde et décimée par 10 ans de conflit avec les djihadistes de Boko Haram, a annoncé lundi la mise en place d'un confinement total après la mort d'un infirmier de Médecins sans frontières des suites du COVID-19. Plusieurs autres États ont déjà pris ces mesures très strictes dans le reste du Nigeria, et celles-ci ont entraîné de fortes protestations sociales dans le pays, où près de la moitié de la population vit dans une extrême pauvreté. Le président tanzanien John Magufuli a appelé ses concitoyens à se tourner vers Dieu et à continuer de faire marcher la machine économique, mais à mesure que les cas de coronavirus se multiplient, les appels à prendre des mesures plus strictes se font plus pressants. Le Conseil de sécurité de l'ONU a ajouté lundi à sa liste de personnes sanctionnées en Centrafrique un chef rebelle signataire de l'accord de paix du 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés, selon des sources diplomatiques. Au terme de cet accord, les signataires se partageaient notamment des postes au gouvernement. Le général autoproclamé Abdoulaye Miskine figurait dans le dernier rapport des experts de l'ONU chargé du contrôle des sanctions et de l'embargo sur les armes décrétées en 2019. La suite de nos informations. Après la localité de Wuhan, berceau chinois de l'épidémie, plusieurs pays commencent timidement à assouplir le confinement imposé à leur population. Les détails avec Abdourahman Dia.
En RDC, le quartier de la Gombe, siège du gouvernement et des grandes ambassades, va commencer ce mardi un déconfinement progressif par la réouverture des supermarchés, des épiceries et des guichets de banque. Le Ghana a levé hier le confinement de deux régions, dont celle de la capitale Accra. En Europe, l'Allemagne, confinée depuis la mi-mars, a autorisé hier la réouverture des magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés. Viendra ensuite une réouverture progressive des écoles et lycées à partir du 4 mai, en commençant par les élèves les plus âgés. En Italie, premier pays européen à s'être confiné le 10 mars, quelques commerces comme les librairies et les laveries ont rouvert le 14 avril dans certaines régions. En Espagne, une partie des travailleurs a repris le chemin des usines et des chantiers le 14 avril. Les Tchèques, confinés depuis le 16 mars, ont entamé lundi un déconfinement qui doit s'étaler jusqu'au 8 juin. Enfin, en Inde, où le confinement a commencé le 25 mars, les autorités ont autorisé une partie de ses habitants à reprendre le travail. Des secteurs agricoles, la construction et certaines industries sont concernés, s'ajoutant aux services essentiels qui étaient déjà autorisés.
Face à la pandémie de coronavirus, chaque pays a du mal à faire suffisamment de tests, mais au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, la situation est encore plus désastreuse. Claire Morin-Gibourg.
Près de 4 établissements de santé publique sur 5 au Nigeria n'ont même pas d'eau courante, d'après le docteur Francis Faduyile, président de l'Association des médecins nigérians. Des milliers de médecins nigérians travaillent à l'étranger alors que le pays ne compte pas un médecin pour 1000 habitants. Les tests officiels sont trop lents, a déclaré Zouera Issoufou, directrice de la fondation Dankote, la branche philanthropique d'Alico Dankote, l'homme le plus riche d'Afrique. Sa fondation a commandé 250 000 kits de tests, mais la demande mondiale pour ces kits a explosé, alors ils arrivent au compte-gouttes.
Le gouvernement de coalition du Lesotho a signé hier un accord avec l'Afrique du Sud. Il s'engage à permettre un retrait digne, élégant et sûr du premier ministre contesté, Thomas Sabani, sans toutefois fixer de date. Éric Manirakiza.
Au pouvoir depuis 2017, Thomas Sabani, 80 ans, a fait descendre samedi l'armée dans les rues du royaume pour restaurer l'ordre face à ceux qui exigent sa démission. En début d'année, il a été mis en cause dans le meurtre de son ex-épouse. Pourtant, lâché par sa mouvance, M. Taban s'accroche à son poste et n'a promis de le quitter que d'ici à la fin juillet en raison de son âge. L'armée est rentrée dans ses casernes dimanche alors qu'une médiation sud-africaine dirigée par l'ancien ministre Jeff Radebe a débarqué à Maseru, la capitale, pour tenter de trouver une issue à la crise. Après des discussions impliquant le roi Letsi III et toutes les parties, le gouvernement a accepté de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'un retrait digne, élégant et en toute sécurité du Premier ministre, selon un communiqué. Ce texte ne précise toutefois pas de calendrier de départ pour M. Taban. L'exécutif a également réaffirmé son engagement à respecter l'état de droit, la justice et les forces de sécurité, afin d'assurer la sécurité et la prospérité de la nation.
La Minute Écho avec Ekia Bodin.
Au Burkina Faso, les affaires vont enfin pouvoir reprendre au marché central de la capitale Ouagadougou, considéré comme le poumon économique du pays, rouvert lundi près d'un mois après sa fermeture pour cause de coronavirus, au grand soulagement des commerçants. En pratique, les boutiques n'ouvriront effectivement que ce mardi, après la cérémonie officielle, pour donner le temps aux commerçants de reprendre possession de leurs étals. Air Sénégal, qui reporte le lancement de ses dessertes long courrier, souhaite en revanche démarrer dans les prochaines semaines un pont aérien vers l'Europe et l'Asie et embarquer du fret sur les sièges passagers. Le prix du baril de pétrole américain a poursuivi sa chute libre pour passer côté New York à 1 cent, son plus bas depuis plus de 36 ans. Les marchés du pétrole subissent les effets des restrictions de déplacement et la paralysie de nombreuses économies à cause de la crise du coronavirus qui ont fait fondre la demande, d'autant qu'une profonde récession s'annonce dans le monde.
Les sports à présent, Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Vous le savez, le Sénégal se prépare à accueillir en 2022 les Jeux Olympiques de la Jeunesse JOJ, une version réduite des JO qui accueille tous les 4 ans plus de 4000 sportifs âgés de 15 à 18 ans. Cette quatrième édition est prévue pour se tenir entre mai et juin 2022. Comment se déroulent les travaux préparatifs de ces JOJ en ces temps de confinement liés au coronavirus? Le président du Comité national olympique sénégalais, Mamadou Diayane Diaye, nous en parle via Skype. Suivez cet entretien.
Parlant des Jeux Olympiques de Tokyo, on sait que des athlètes sénégalais se sont qualifiés pour les Jeux. C'est reporté d'un an. Cela signifie bien sûr qu'il faut encore accompagner ces athlètes-là pendant un an. Qu'est-ce que le Comité national olympique sportif et sénégalais fait dans ce sens?
Nous avons eu une vidéoconférence avec le président du CIO lui-même, qui garde le même dispositif de bourse pour les athlètes africains jusqu'en 2021. Donc ça, c'était le point le plus épineux. Et le CIO a donné complètement son accord.
Il y a les Jeux Olympiques de la Jeunesse que le Sénégal s'apprête à accueillir en 2022. Où en êtes-vous avec la préparation de ces Jeux-là?
Écoutez, nous, on continue comme s'il n'y avait pas de pandémie, en prenant des règles de précaution. Hein. Des règles prudentielles édictées par l'OMS sont respectées. Nous sommes sur les sites quasiment tous les jours. Nous sommes en contact avec le terrain, hein, le village olympique, l'université où les étudiants vont loger. Le travail continue. Et toujours en accord parce qu'on a un groupe de travail où il y a des membres du CIO.
On le sait, c'est quand même beaucoup d'athlètes qui vont se déplacer, environ 4000 âgés de 15 à 18 ans. Actuellement, la plupart des gouvernements sur le continent et dans le monde entier ont émis des mesures de restriction. Comment est-ce que vous arrivez à travailler malgré cela? Et est-ce que ces restrictions-là auront un impact sur, par exemple, l'échéancier que vous avez prévu pour finir bien sûr vos travaux?
C'est plus que 4000 d'ailleurs, athlètes. C'est 4676, 1500 encadrements. Et puis, il y aura, à mon avis, 500-600 journalistes qui seront là. Donc ça fait beaucoup de monde. Nous sommes en plein maintenant dans le numérique. Quelque chose de malheur est bon, ça nous a permis de tester notre dispositif. Et nous arrivons à travailler en temps réel aussi bien avec nos partenaires, chez You, qu'avec d'autres partenaires installés ici. Mais sur le terrain en tout cas, des jeux, de l'organisation, de l'hébergement, donc des réceptifs, nous ne sommes pas en retard.
Mais aussi, on sait les conditions dans lesquelles les athlètes évoluent en Afrique. Les structures sportives ne sont pas suffisamment nantis financièrement pour pouvoir les soutenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau du Comité national olympique sportif et sénégalais qui coiffe tous les sports confondus pour accompagner ces athlètes-là?
Oui, sauf un petit bémol. La tutelle de toutes les fédérations, de toutes les disciplines sportives, c'est le ministre des Sports. Nos athlètes ne peuvent pas s'entraîner en groupe. Ça c'est sûr, comme le football, la ligue, etc. Mais pour ce qui est de l'athlétisme, d'aller courir tout seul, ça peut se faire.
Mamadou Diayane Diagne, président du Comité national olympique sénégalais, joint à Dakar.
Chers auditeurs et auditrices, c'est Nato Camara, votre artiste, chanteuse, compositrice. Aujourd'hui, nous luttons contre l'invisible coronavirus, une pandémie qui ravage nos vies autour du monde. Pour sauver ma vie et celle des autres, je respecte le confinement et les distances de sécurité. Je prends mes mesures sanitaires, je me couvre le visage quand je tousse ou quand j'éternue. Je me lave les mains régulièrement et porte des gants lorsque je sors de chez moi. Mes chers amis, famille, fans de tous les jours, auditeurs et auditrices, pour mettre fin à cette pandémie, protégez-vous et protégez votre entourage. À très bientôt dans nos vies de tous les jours et dans les concerts. Portez-vous bien et prenez soin de vous.
aujourd'hui VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sefouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, accuse les forces de sécurité du Burkina Faso d'avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo, dans le nord du pays. Une théorie qui a eu lieu lors d'une opération antiterroriste le 9 avril. L'organisation explique que des habitants ont été pris chez eux par les forces armées nationales et froidement abattus. Bagassi Koura a joint ici à Washington Corinne Doufka, responsable Sahel de Human Rights Watch.
Oui, selon les témoins avec lesquels on a parlé, donc le matin de 9h-10h, le force de l'ordre basé à Djibo ont quitté leur base dans un convoi d'une dizaine de voitures, parmi eux une blindée et plusieurs motos. Ils ont commencé d'interpeller les hommes dans plusieurs secteurs de Djibo. Donc après qu'ils ont interpellé une trentaine de personnes, ils ont amené dans une secteur à côté d'un cimetière, et vers près de 30, ils ont procédé de les exécuter. Après, vers 16 heures, après que la population a vu que le convoi avait quitté le lieu, ils ont allé sur le lieu, ils ont trouvé 31 corps exécutés.
Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on les a exécutés?
Oui, ça c'est pas le premier incident à Djibo, et bien dans le nord de Burkina Faso qu'on a documenté. La plupart des victimes étaient le Peul, les hommes Peul, et le groupe islamiste, depuis plusieurs années, ont concentré leur recrutement envers la population Peul au Fulani. Et on a remarqué que le force de l'ordre est entré dans une dynamique de punissement collectif contre la communauté Peul. Donc, on paraît que les hommes sont accusés de soutien à les islamistes, mais apparemment, ils étaient arrêtés sans armes. Ils sont être inquiétés et, si c'était le suspect, donc jugé.
Alors, vous dites avoir remis votre rapport au gouvernement. Est-ce que vous avez une réaction des autorités?
Non, pas encore. Mais après le dernier rapport que Human Rights Watch avait fait, et ce n'est pas le seul incident qu'on a documenté. On a documenté plusieurs incidents dans lesquels plusieurs centaines de suspects étaient exécutés par le monde. Ils ont promis, ils ont pris un engagement d'enquêter les incidents, mais ils n'ont presque pas fait. Donc, même s'ils ont promis d'enquêter, nous voulons vraiment dire au gouvernement qu'il devrait vraiment enquêter les incidents et assurer que les responsables sont jugés et condamnés.
Vous appelez les partenaires du Burkina Faso, notamment l'Union européenne et les autres, à mettre la pression sur le pays pour que des enquêtes aient lieu.
Exactement. Et aussi, on demande aux acteurs internationaux qui fournissent l'assistance militaire à l'armée Burkina Faso d'assurer que cette assistance ne soit utilisée par les unités responsables pour ces massacres et pour les autres.
Corinne Doufka, responsable Sahel de Human Rights Watch.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Nigeria, avec le double fléau de COVID-19 et la fièvre de Lassa, qui font des victimes parmi les Nigérians, et des dizaines d'agents de santé, la pénurie d'équipements de protection individuelle parmi les agents de santé suscite des inquiétudes. Reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Les difficultés croissantes d'approvisionnement en équipement de protection individuelle suscitent des inquiétudes chez les médecins, les infirmiers et autres agents de santé en première ligne de la lutte contre le COVID-19 au Nigeria. Dr Francis Fadoyele, président du syndicat des médecins du Nigeria.
Nous
n'avons pas assez de masques médicaux N95 dans nos hôpitaux. Et c'est ce qui fait le problème, parce que la majorité des patients du COVID-19 passent d'abord par l'hôpital avant d'être diagnostiqués. Et cela expose notre personnel soignant.
Et ça expose nos health workers.
En raison de l'accès limité aux masques de protection, un brillant cardiologue nigérien basé à Lagos, Dr Chibu Emeka, 51 ans, est décédé mercredi dernier après avoir été exposé à un patient du Covid-19 qu'il soignait dans son hôpital privé. Le décès du Dr Emeka faisait suite à celui d'un autre médecin tué par le Covid-19 à Katsina dans le nord-est du pays. La mort de ces deux médecins a provoqué des craintes chez les agents de santé qui risquent quotidiennement leur vie à cause de la pénurie des masques de protection. Mais le directeur général du Centre national de contrôle des maladies explique que ce manque est dû à la forte demande dans tous les pays. Dr Chikwe Iekwezu. 50% de tous les masques dans le monde est produit dans un seul pays, la Chine, qui a été confinée pendant des mois et qui tente maintenant de reprendre la production, ce qui pourrait changer la donne. Beaucoup de matériels de production sont produits dans les pays qui sont dans le besoin eux-mêmes. Et ces pays ont interdit l'exportation de ces produits, notamment les masques. Donc la demande est très forte. Le port du masque de protection n'est pas encore obligatoire au Nigeria, mais les pharmacies signalent des ventes en grand nombre à la suite d'une augmentation de la demande. Face à l'insuffisance de masques médicaux, le pays se tourne vers l'obtention de n'importe quel type de masque utilisable pour le public, comme le précise Dr Francis Faduile du syndicat des médecins. Ce que le Nigeria fait ces derniers temps est de voir comment obtenir n'importe quelle forme de masque facial, au moins pour le public. Cela nous permettra de réduire la forte demande des masques chirurgicaux. Le nombre de cas confirmés du Covid-19 au Nigeria a atteint 627 personnes infectées, 170 guéries et 21 morts selon le Centre national de contrôle des maladies. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, nous nous penchons sur les médias et l'accès à l'information durant cette pandémie du Covid-19. Au moment où la majorité de la population est confinée, Internet devient plus que jamais essentiel dans le travail des journalistes et pour un public avide d'informations crédibles en cette période de crise sanitaire. Comment les médias s'organisent-ils pour continuer à informer le public? Comment aider les populations à identifier les fake news? Les gouvernements doivent-ils rendre Internet plus accessible, surtout en cette période de crise? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi 23 avril à 19h, temps universel sur VOA.
En République centrafricaine, alors que le pays fait face à la pandémie de Covid-19, une crise politique se pointe à l'horizon. Un projet de modification de la Constitution initié par des députés pour proroger les mandats présidentiels et législatifs crée en effet la polémique. De Bangui Freeman Sipila.
Se basant sur un probable report des élections prévues en décembre prochain, une partie des députés propose un texte pour modifier l'article 35 de la Constitution afin de proroger les mandats présidentiels et législatifs. Les initiateurs du projet le justifient par l'impact que la pandémie de coronavirus pourrait avoir sur le calendrier électoral. Mathurin Dimbelenakwe, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, un des initiateurs.
Tout le monde veut, moi personnellement je veux, que les élections aient lieu dans les délais prévus par la Constitution. Mais avec l'avènement de ce coronavirus-là, qui certainement, je ne le souhaite pas, amènerait peut-être le gouvernement à édicter des mesures qui ne favoriseraient pas la tenue des élections dans des délais ou entraînerait par exemple un glissement d'une semaine, de deux semaines avec conséquence sur la fin du mandat du président de la République. Est-ce qu'en une semaine, il faut mettre une transition?
Le projet déclaré recevable par le bureau de l'Assemblée nationale le 16 avril dernier fait réagir la classe politique et la société civile. Serge Bayumbo, porte-parole du service de communication de l'URCA, le principal parti de l'opposition.
Les motifs évoqués par les députés pour modifier la Constitution ne tiennent pas route. Et donc nous pensons que modifier la Constitution à ce niveau-là, on ne peut pas quand même admettre et nous disons non au niveau de l'URCA.
Le groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine met lui aussi en garde contre une telle initiative. Gervais Lacosso est son coordonnateur.
Tous les pays du monde en émettant des restrictions ajoutent des mesures d'accompagnement. Mais ici, chez nous, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Et la seule mesure d'accompagnement qu'on veut nous proposer, c'est la modification de la Constitution en vue de proroger les mandats du chef de l'État et des députés. Nous savons tous, c'est impossible de modifier les articles de la Constitution qu'ils veulent modifier.
Thierry Patrick Akuluza, ancien rapporteur général du Conseil national de la transition, institution à l'origine de l'actuelle Constitution, propose un consensus en vue d'éviter une crise politique.
Si nous sommes dans un cas de force majeure, nous devons nous dire la faute appartient à qui ? Un consensus politique doit se dégager pour permettre à ce que l'Assemblée nationale, qui n'est pas habilitée à modifier l'article 35, peut le faire. Si les élections ne sont pas organisées dans ce délai-là, il faudrait absolument qu'il y ait un consensus autour.
De son côté, le Conseil national de la jeunesse craint une nouvelle crise. Pamela Derome, la présidente de cette organisation, appelle les hommes politiques centrafricains à l'unité.
Pour éviter qu'il y ait dérapage ou bien dégradation de la situation, que dans un bref délai, le gouvernement puisse convoquer les forces vives de la nation autour de table afin de discuter et qu'en commun accord, on puisse trouver des palliatifs à tout ce problème. Et aussi à l'endroit de nos hommes politiques de dire que l'heure est plutôt à l'union pour faire face à la pandémie qui est en train de nous décimer tout doucement.
Alors que tous les efforts sont concentrés sur la lutte contre le Covid-19, dont 12 cas positifs sont officiellement répertoriés à ce jour dans le pays, le projet de loi qui fait polémique est déjà envoyé au gouvernement. Ce dernier a 45 jours pour se prononcer sur la question. Freeman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
En République du Congo, le gouvernement a relancé les opérations de recensement général de la population. Les autorités expliquent profiter du confinement pour mener à bien cette opération, car tout le monde est désormais à la maison. Une démarche que rejette notamment l'opposition. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Malgré l'annonce de recensement et les multiples explications fournies par le gouvernement, notamment la ministre en charge du plan Ingrid Olga Ebuka Babakas, la population ne semble pas convaincue et rejette même cette opération.
Moi je suis totalement contre et je pense que cette mesure est déraisonnée. Ce n'est pas normal. Au lieu de s'assurer de la sécurité de la population, on pense au dénombrement.
Tout le monde se bat pour s'assurer et c'est le plus important. Le reste, faut attendre.
Je ne sais même pas si c'est vrai parce que je ne me suis pas rassé depuis 10 jours. Il me manque de quoi aller me jeter les rasoirs. Je ne gagne pas d'argent et eux, ils vont venir me casser les pieds.
Nous allons assister à une contestation des résultats qui sortiront de ce recensement. Et la deuxième conséquence, c'est que nous n'aurons pas une élection crédible en 2021.
Pour le chef de file de l'opposition, Pascal Tassé-Madiala, les priorités sont ailleurs et en cette période de confinement, le gouvernement devrait surseoir le recensement.
En 2017, ils ne l'ont pas fait. Ils ont les ressources, ils ont le temps. Il y avait quelle raison de ne pas le faire dans la plus grande sérénité, la plus grande tranquillité? Ils ne l'ont pas fait. Et donc, s'ils avaient commencé en 2017 comme cela est prescrit, je crois que nous aurons déjà terminé le recensement de la population avant qu'on arrive justement cette épidémie, cette pandémie qui a tout arrêté. Madame veut nous dire, si nous perdons ces 3 mois, ben nous risquons de tout perdre. Mais ils avaient déjà perdu pendant plus de 23 ans.
Le principal parti au pouvoir, le PCT, soutient naturellement l'action du gouvernement, appelant les populations à réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Fort de cela, quelques agents sont déployés dans les quartiers de Brazzaville et ici à Mongali par exemple, une famille vient d'être dénombrée.
Nous abdominaux seront les noms des gens qui vivent dans notre ménage. C'est tout. Et puis ils ont demandé s'il y a des gens qui ont quitté ce
pays. L'ingénieur en statistique Lévi Mayala, qui conduit cette opération, affirme que toutes les dispositions sont prises pour ne pas infecter la population.
Nous faisons de respecter toujours, n'est-ce pas, la distanciation sociale de 1 mètre. Donc si par exemple nous arrivons dans un ménage et qu'il y a une certaine résistance, n'est-ce pas, depuis le portail, nous pouvons prendre les informations paisiblement, sans pourtant y avoir accès, n'est-ce pas, dans la parcelle. Comme le nom l'indique, en fait, c'est la cartographie sensitaire du 5e recensement de la population. En fait, la cartographie, c'est quoi? C'est la phase préliminaire, n'est-ce pas, du recensement.
D'après le dernier bilan officiel, le Congo-Brazzaville compte 11 guéris et 6 décès sur les 143 cas de Covid-19 confirmés, dont 98 dans la capitale. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition. matinale du Monde aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.